Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour à vous si vous venez de nous rejoindre. J'espère que vous êtes en forme si vous êtes avec nous depuis 7h ce matin. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pas de panique. Toutes les interviews, toutes les chroniques, tout est disponible en podcast sur notre site radio.imo, sur notre application du même nom et sur tous les agrégateurs de podcasts sur lesquels vous avez vos habitudes. Vous pouvez tout retrouver, mais je vous conseille de ne chercher ça que d'ici une bonne cinquantaine de minutes puisque nous allons maintenant attaquer cette deuxième heure du MAG de l'IMO. Et vous le savez, cette deuxième partie est consacrée à notre grand témoin du jour. Je dis notre, car évidemment, je ne suis pas seule. Je suis toujours en compagnie de Fabienne Lissac. Fabienne, toujours en forme?
Tout à fait. Merci de m'accueillir sur votre plateau, Johanna.
Mais écoutez, avec plaisir. Fabienne, je vous sens solaire ce matin et ravie d'accueillir notre grand témoin de la semaine.
Oui, parce que c'est pas d'un sillage. Il y a tout un, comme on dit, une lancée de comète où tout le monde m'a dit tellement de bien de notre invité Laurent Thirault, que ça aiguise la curiosité. Donc, je suis toujours contente de découvrir de nouvelles personnalités dans l'immobilier. Tout le monde vous connaît déjà, pardonnez-moi, j'ai un train de retard. Et effectivement, ce groupe Equilis, apparemment, va manger un acteur qui monte dans l'Europe. Et j'avais juste une grosse interrogation que je voulais partager avec Johanna. C'est que quand on va sur le site d'Equilis, partout, on va marquer Happy Stories. Et nous, les gens qui nous racontent des histoires, des salades, des journalistes, on n'aime pas beaucoup ça. Donc, vous êtes quelqu'un, Laurent Thirault, qui raconte des histoires? Qu'est-ce que c'est que ce credo Happy Stories tout le temps, là?
Vous avez même oublié le mot juste avant, qui est l'essentiel, building Happy Stories. On construit des belles histoires. Ça vient du fondateur de ce groupe, qui est Karl Mesdag, qui a décidé un jour que l'immobilier ne se concentrait pas sur un sujet de béton ou de parpaing ou de ce que vous voulez, mais qu'aujourd'hui, vous étiez dans la création d'histoires pour les clients, les usagers, les collectivités, nos collaborateurs, nos partenaires. C'est que vous voulez faire du business sur le long terme, construisez avec l'ensemble des parties prenantes des belles histoires.
Donc vous êtes un conteur d'histoires. On a un conteur aujourd'hui, Johanna. Mais quel type d'histoire vous adaptez au public? C'est quand même un petit peu étonnant, parce qu'un bâtiment, une construction, c'est d'abord des matériaux, ça dépend d'un lieu. L'histoire, elle ne peut pas se moduler à l'infini, si? Quelle est votre vision?
Tout dépend de l'angle dans lequel vous prenez le sujet. Soit vous prenez l'objet, soit vous prenez l'usager. Notre sujet est l'usager. Notre sujet est de faire en sorte que les gens qui utilisent les espaces que nous créons, qu'ils soient pour acheter, pour travailler ou pour vivre, vivent des belles histoires dans les lieux que nous créons pour eux. Et l'usager est au centre.
Alors, on vous sent déjà passionné après ces quelques mots. Et je vous voyais effectivement piaffer plutôt sur la musique de Coldplay, où là aussi vous êtes passionné. Vous êtes un homme de passion?
Oui, je pense. Ouais, j'ai quelques hobbies, quelques passions. La musique, l'art, mon travail, ma famille, mes proches.
Quand vous dites l'art, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? C'est une discipline en particulier?
Je vais vous délivrer un secret. J'ai un hobby, je peins. À côté de mon travail, voilà. C'est un de mes hobbies de longue date, par exemple. Mais j'en ai d'autres. Le sport. Mais le sport, vous voyez, pour moi, tout ça se fait avec le lien, avec les autres. Ma principale passion, c'est l'humain.
Alors, qu'est-ce que vous peignez? Parce que vous allez un petit peu vite, c'est bien dans le MAG de l'IMO. On a le temps de découvrir les choses. Qu'est-ce que vous peignez? Puis quand vous dites c'est collectif, c'est le lien, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi, je vois un peintre avec sa palette devant une toile.
Mon plus grand plaisir, c'est quand j'ai un ami qui me dit « j'ai jamais peint de ma vie » et je le prends avec moi et on fait une toile à deux.
Ah oui?
Et je l'accompagne dans la création qu'il veut faire.
Eh bien, je vous propose de faire une peinture avec Johanna Silberstein, qui a un regard extrêmement acéré sur le monde. Pas vrai, Johanna?
Et qui ne sait pas peindre du tout.
Vous pensez que vous ne savez pas peindre, parce que vous n'avez jamais essayé. Vous allez être surprise.
Je pense que de toute façon, on ne sera pas déçus, dans un sens comme dans l'autre. Il n'y aura pas de déception.
Alors, quant au sport, je ne sais pas si vous avez un engouement pour tous les sports. J'ai cru comprendre que la pédale, ça vous connaît, vous n'arrêtez pas d'être sur les routes à faire des kilomètres en vélo. Alors, c'est vrai?
J'aimerais bien, mais si vous me voyez, ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai un peu d'embonpoint qui démontre que je ne suis pas assez sportif. Non, j'aime le sport en général, mais j'aime le sport pas solitaire. J'aime le sport avec les autres. Quand je fais du vélo, c'est forcément avec des amis. Quand je fais aujourd'hui du golf, c'est forcément avec des amis. Quand je fais un squash, c'est forcément avec quelqu'un. Les jeux de balle, les jeux de tennis. Et j'ai très longtemps joué au football parce que c'est un sport d'équipe qui m'a toujours passionné. Voilà. Donc le but est à chaque fois d'avoir une activité avec quelqu'un, d'avoir un lien.
Et bien là, vous en avez deux pour le prix d'un. Et vous avez dit que vous faites, effectivement, que vous avez pas mal d'amis. Vous savez, on fait de l'enquête avant que nos invités arrivent. On a fait de l'investigation et on a contacté quelques personnes. Vous avez parlé d'amis. Johanna, vous avez mené cette enquête dans l'écosystème autour de Laurent Thirault. Vous avez des informations à nous donner ?
Oui, mais alors je n'ai pas fait seule, hein, Fabienne. Vous avez participé aussi. Écoutez, on va commencer par un premier témoignage, celui d'un collaborateur. Et puis comme ça, après, on pourra voir quel président vous êtes. On va écouter Olivier Faurou, que vous avez connu chez Bouygues Immobilier. Ça fait quand même quelques temps. On peut dire qu'il vous connaît bien.
15 ans, quand même.
Et en 15 ans, il a eu pas mal d'anecdotes et de choses à nous dire. On l'écoute tout de suite et on revient juste après.
Olivier Faurou, bonjour. Vous êtes directeur administratif et financier chez Equilis. Et vous avez commencé à travailler avec Laurent Thirault bien avant Equilis encore. Vous le connaissez bien.
Ah, oui, tout à fait. Ah, oui. On s'est connus en Pologne. Il y a maintenant, on va dire, quelques bonnes années, et on s'est retrouvés à Paris au niveau de la direction générale de Bouygues Immobilier, et on se retrouve de nouveau chez Equilis. Donc voilà, ça fait effectivement quelques bonnes années qu'on travaille ensemble, avec grand plaisir d'ailleurs.
Quel type de manager est-il ?
Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions, de valeurs, et vraiment quelqu'un qui va de l'avant et qui a peur de pas grand chose. Donc c'est motivant et challengeant de travailler avec Laurent, en fait. Voilà.
Voilà, dans la société, comment il est perçu, quelles sont ses priorités en termes de voilà la dimension humaine fait partie de son management?
Oui, il n'a pas un management distant des équipes, bien au contraire, c'est vraiment un manager proximité, et c'est ce qu'il aime aussi, c'est que, alors c'est un grand pro de l'immobilier bien sûr, mais ce qui l'intéresse, c'est les équipes, donc travailler tout seul, je suis pas sûr que ça soit d'un grand intérêt pour lui, et c'est justement un de ses challenges qu'il a là dans cette société, c'est effectivement que l'on se développe, mais que l'on se développe et qu'on grandisse tous ensemble, donc de constituer une équipe pour l'avenir, et c'est quelqu'un qui a besoin de travailler avec des gens de confiance, qui soient solides, compétents, mais ouverts aussi, qui est un peu le même état d'esprit, d'ouverture, de respect, de valeurs partagées. Et ça, c'est important pour lui.
On comprend que vous êtes dans la fidélité. Hein, 25 ans chez Bouygues Immobilier, des collaborateurs qui vous suivent. Qu'est-ce qui vous a pris un jour de changer de maison ?
Alors, si je suis très honnête, ce n'est pas moi qui ai décidé. Ça, c'est la vie.
C'est votre femme ?
Non, je plaisante. C'est, quand vous avez un président et un directeur général qui ne s'entendent pas, bah, c'est tout. Il y a une décision de prendre et qui était bien à la fois pour moi et pour Bouygues Immobilier. Je le pense. Enfin, en tout cas, pour moi. Après, vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous vous dites « Ah, c'est terrible ». Soit vous vous dites « J'ai une aventure devant moi ». Et c'est là où j'ai pris ça comme une chance pour créer une nouvelle aventure qui était différente de ce que j'avais déjà vécu. Mon épouse, qui pendant très longtemps m'a dit « Mais t'es marié avec... » m'a dit deux choses, vous savez, elle me connaît depuis 30 ans. Elle me dit « T'es marié avec cette société ». Je lui dis « Non, tant qu'il me propose des changements intéressants, et ce qui a été le cas pendant 24 ans sur les 25 années, c'était riche, parce que tous les 3 ans, je faisais des choses différentes dans mon parcours. » Elle m'a dit une deuxième chose marrante, quand on arrêtait, elle me dit « T'étais engagé à 150% et le jour où t'arrêtes, t'as coupé, tu regardes autre chose, tu regardes devant. » Ça, c'est moi. Moi, je suis là pour regarder devant, pas derrière.
Donc, quand c'est fini, c'est définitivement terminé ?
Ah oui, parce que ce qu'il faut... Vous savez, il y a deux choses. Vous ne vivez pas avec des regrets ou des remords. En tout cas, pas avec des regrets, ce qui est mon cas. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder devant. Et ce qui est important, c'est de progresser. C'est de progresser soi-même Et moi, j'aime la découverte. Mon parcours m'a amené à travailler dans plein de pays, à faire plein de choses. Et aujourd'hui, bah, vous voyez, après avoir travaillé longtemps pour un groupe français à l'étranger, je travaille pour un groupe étranger en France. Bah, je trouve cette nouvelle aventure fascinante pour une raison que Olivier a donnée, l'aventure humaine. Il y a une aventure entrepreneuriale. Il y a une aventure humaine avant tout, avec des gens de confiance dont on parlera peut-être, qui sont les actions, enfin les familles qui me suivent, parce qu'il y a une, il y a deux choses, la confiance et la simplicité, qui vous permet d'avancer vite. Je dis souvent, la guerre, elle n'est pas à l'intérieur, elle doit être à l'extérieur, parce que la concurrence est forte. C'est vraiment simple.
Alors maintenant, vous êtes marié à Equilis, si je comprends bien.
Ouais.
Et
150%.
La filière internationale, c'est votre fil conducteur précisément, parce que quand on s'intéresse un petit peu à votre parcours, on a l'impression que vous êtes vraiment un globe-trotteur, ou peut-être un Européen convaincu, c'est ça ?
Alors je suis un Européen convaincu, et j'avoue que j'ai, dans le parcours que j'ai fait jusqu'à présent, que ce soit avec Bouygues Immobilier ou même avant, l'aventure de découverte de nouveaux marchés, des nouvelles façons de travailler à l'étranger, est quelque chose qui m'a fasciné et enrichi personnellement. Aujourd'hui, l'aventure Equilis, c'est là aussi une aventure humaine avec un fondateur que je connais extrêmement bien. Et là aussi, en fin de compte, qu'est-ce qui a fait que je suis parti avec lui ?
C'est un Hollandais ? C'est
un Belge.
Un Belge.
Karl Mesdak. Et qu'est-ce qui fait que je suis parti avec lui ? C'est la confiance qu'il avait en moi et que j'ai en lui, avec l'envie d'avoir une aventure commune.
Donc vous êtes plutôt du Nord. Hein. J'ai vu que jeune, vous étiez plus jeune. Vous étiez bien implanté à Rouen, la Normandie. Hein. On est passé tout de suite, c'est vrai, dans le vif du sujet, mais le parcours, ça nous intéresse. Vous êtes diplômé d'une maîtrise de sciences éco et tout de suite à Lille, et tout de suite vous dites, tiens, je vais aller dans l'immobilier. Donc, comment ça s'est fait, les petites étapes ?
Alors, je suis de Lille. Je suis né à Lille et grandi en Picardie. La Normandie est arrivée bien après. Après mes études de maîtrise d'économie où j'ai commencé un DEA, je me suis aperçu que c'était un peu trop théorique pour moi. Il me fallait monter dans la vie d'entreprise, la vie pratique. Et là aussi, vous réfléchissez, et je suis parti aux États-Unis une année pour travailler, pour apprendre l'anglais, parce que j'étais comme beaucoup de Français, jeunes Français, qui à l'époque, voilà, je savais dire « how do you do ?»
Qu'est-ce que vous faisiez, du coup ?
J'ai un peu progressé.
Maintenant, vous savez
aussi
répondre.
Pardon ?
Maintenant, vous savez répondre à la question.
Oui, et en belge aussi, en flamand aussi, si vous voulez tout ça, ayant une épouse hollandaise. Ça m'a amené très vite, après à revenir, je me suis posé la question de quoi faire, est-ce que je reparte aux États-Unis ? J'ai dû faire l'armée, et puis je suis arrivé en Normandie, parce que les années 90, j'ai trouvé un travail. Là, on revient à mon histoire, où depuis que j'ai 16 ans, j'ai dû me débrouiller tout seul. Je ne vais pas vous faire causette, hein, parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Moi, j'ai une belle enfance, mais un père qui est décédé jeune. Et donc, de ce fait-là, avec mes frères et soeurs, on a dû très vite se rendre autonome dans la vie. Et quand vous prenez en charge, et ben, vous trouvez un travail qui était dans le développement économique. J'ai eu la chance de faire ça 4 ans. Et au bout de 4 ans, c'est posé la question, ben, voilà, est-ce que je reste dans ce monde parapublic ou est-ce que je vais dans le privé ? Et là aussi, l'envie d'aller me battre dans un monde d'entreprise privée me plaisait. Et Bouygues Immobilier, de l'époque, les patrons rouennais ont appris que je cherchais, ils sont venus me chercher. Et j'ai démarré et j'ai dit à mon épouse, je ne sais pas ce que c'est que ce métier, mais je pense que c'est fait pour moi. Est-ce que ça te dérange si tout compte fait, au lieu d'aller s'installer à Lille, on reste à Rouen ? Et c'est ce qu'on a fait. Parce que moi, j'ai une chance incroyable. Avant tout, c'est mon épouse.
Alors, on l'invitera la prochaine fois. Mais là, on a déjà on n'est déjà pas tout seul aujourd'hui. Et en fait, est-ce que vous avez gardé des liens avec la Normandie ? Il y a beaucoup de parisiens.
Oui.
Ils passent tout leur week-end, une magnifique région avec des résidences secondaires.
Alors, je n'ai pas de résidence secondaire en Normandie, mais moi, c'est ma personnalité. Le sujet, ce n'est pas le bien, c'est le lien. Donc, j'ai gardé beaucoup d'amis en Normandie.
Et ensuite, alors, on dirait que vous êtes devenu un véritable Polonais. Vous parlez le polonais ? Vous aimez le borsch ? Quel est votre plat préféré ?
Jakchemach. Hein. Donc, je vais baragouiner. Non, c'est vrai que la Pologne a été une autre aventure extraordinaire.
Vous étiez où en Pologne ?
À Varsovie, pendant 4 ans. Et ça a été, là aussi, après la Belgique, une aventure familiale et une aventure professionnelle très riche. Familiale, parce que ben voilà, j'avais mes enfants, ils ont découvert aussi ce qu'était l'école internationale. Et puis, deuxième chose, professionnellement, parce que je suis arrivé en pleine crise, 2008. On avait prévu de développer 5 villes, 3000 logements, et puis il ne se passait plus rien. Donc, il a fallu avant tout restructurer, reconstruire une équipe pour ensuite se redévelopper, ce qui a été fait, et d'assainir. Donc, j'ai appris ce que c'était que restructurer une société après avoir développé et créé une société en Belgique. Je vais tout savoir.
Je vois qu'Aquilis a fait des réalisations en Pologne, donc on sent que l'expertise n'est pas restée lettre morte, là.
Non. Petite précision quand même. Moi, je m'occupe, je suis le CEO de la France. Je ne suis pas aujourd'hui le CEO, enfin, je ne suis pas le CEO de l'Europe et des différents pays. Maintenant, c'est vrai que je fais partie du comité stratégique d'Aquilis, ayant travaillé dans beaucoup des pays dans lesquels on est présent.
Et alors, c'est un groupe, on peut en parler un petit peu, hein, tout en continuant dans notre portrait chinois de vous, qui a l'air de tout faire. Immobilier commercial, résidentiel, bureau et réhabilitation. Vous savez tout faire ?
Alors, on ne veut pas savoir tout faire. On ne fait pas de logistique, par exemple, c'était des vrais choix. Par contre, le fondateur qui a créé ça, qui a démarré par son métier de base, la famille, il faut partir du départ. Aquilis a été créé il y a 16 ans, donc c'est une jeune entreprise. Et c'est parti d'une famille, la famille Mesdac, qui est aujourd'hui, qui a fait son activité historique dans le retail, puisque c'est un master franchisé Carrefour avec 87 magasins, plus de 700 millions de chiffres d'affaires. Et il y a 16 ans, ils ont décidé de se diversifier dans l'immobilier. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, quand moi je suis arrivé chez Bouygues Immobilier pour créer la Belgique.
Très
là
bien.
Aussi, c'est une rencontre humaine. Et donc, lorsqu'il a créé ça, évidemment, il est allé dans le métier qu'il connaissait, qui était l'immobilier commercial, venant du retail, en Belgique. Très vite, il s'est aperçu, parce que les Belges sont des entrepreneurs, que la mixité est une donnée essentielle. Et donc, c'est développé en Belgique des opérations mixtes. Et puis, l'opération mixte commerce-logement, bureau, voilà, c'est les grands, et puis un peu d'hôtellerie, mais qui est dans la palette du résidentiel.
C'est vrai qu'on rencontre énormément d'acteurs immobiliers, puisqu'ils ont leur siège chez Radio Immo. Et on a l'impression que si on cherche la carte d'identité, enfin dans le cœur d'Aquilis, il y a un terme qui revient, la mixité d'usage. C'est ça qui fait que vous avez envie d'investir, de vous lancer dans des projets ?
Vous savez, je pense qu'il y a 15 ans, beaucoup d'opérateurs ont compris que lorsque vous développiez un quartier, il fallait de la mixité. Les cités dortoirs n'ont plus raison d'être. Les quartiers d'affaires n'ont plus raison d'être. Parce qu'à un moment, un quartier d'affaires, le soir, c'est mort. Une cité dortoir, ça ne vit pas. Donc aujourd'hui, à la fois les collectivités, les administrations, mais aussi les opérateurs ont compris qu'il fallait cette mixité. Et puis, il est arrivé quelque chose d'assez surprenant que personne n'avait vu, qui s'appelle une crise sanitaire. Quand vous avez une crise sanitaire qui intervient dans laquelle vous avez des confinements, vous découvrez qu'à un moment, dans votre lieu de vie, vous devez travailler, vous devez faire votre shopping, ça s'appelle de l'e-commerce, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que votre mixité, elle est à l'échelle du quartier, que vous connaissez à l'échelle du quartier, est en train d'arriver dans vos résidences. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que vous voyez bien que les usages sont en train d'être bouleversés. On a souvent parlé que l'immobilier se transformait avec les fameux concours inventés par et ainsi de suite. Je pense que d'ailleurs, il y a une étude qui est en train d'être sortie par la Fédération des promoteurs sur la pertinence de tous ces concours à inventer. Est-ce qu'ils ont sorti beaucoup de projets ? Vous verrez les résultats, très peu. Au demeurant, donc on a cru que l'immobilier serait inventé fortement. Je pense que la crise sanitaire nous oblige à aller beaucoup plus vite dans cette façon de réinventer les usages pour répondre justement à ces évolutions.
Je vous vois très ouvert sur le monde et comment voyez-vous les besoins sociétaux évoluer ? Parce que c'est vrai qu'avec la pandémie, on nous a dit le bureau c'est fini, maintenant les gens sont chez eux, vive le télétravail. On voit quand même le balancier qui revient. Et donc vous qui êtes très, très vigilant, qui sur un bon poste d'observatoire, quelle évolution sociétale voyez-vous ?
Mais vous savez, le confinement et le télétravail, on a pensé que... On a juste découvert que le travail était évidemment une façon de gagner sa vie, mais c'était surtout un lien social, un lieu de lien social, et que les gens ont besoin de ce lien. Les gens ne peuvent pas juste rester dans leur coin devant leur ordinateur, ils ont besoin de créer. Moi, j'ai des jeunes enfants, ils ne passent pas, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, derrière l'ordinateur. Ils voient leurs amis et ils ont souffert du confinement. Ils ont souffert de ne pas voir leurs copains, d'aller à l'extérieur, d'aller boire un coup. Moi, j'ai un fils qui est étudiant à Londres. C'est sa vie, il m'a dit « Mais papa, toi, tu as une vie d'étudiant que je n'ai jamais découvert. Je n'ai pas pu découvrir pendant ces deux années de confinement. Donc, le lien est bien au centre. Donc, aujourd'hui, vous êtes bien en train de vous dire que lorsque vous créez une résidence, un quartier, un lieu, des opérations d'envergure, vous devez d'abord réfléchir à comment vous créez ce lien. Et j'aime bien cette expansion qu'on passe de cette économie du bien, où à un moment, ce qui est important, c'est ce qu'on possédait, à cette économie du lien. Et je pense que l'usage, le sujet de l'usage, il est là. Quand vous utilisez des technologies d'aujourd'hui, de demain, c'est pour simplifier un usage, mais aussi créer du lien.
Alors quand même, Equilis, ils regardent, ils scrutent les tendances sociétales, mais je crois qu'ils ont des objectifs très ambitieux. Hein, parce qu'on a vu lors de votre nomination, objectif, tripler le chiffre d'affaires, au moins. Non, vous en êtes où? Quelles sont vos ambitions en France?
Alors, premier petit correctif au démarrage que vous avez présenté, mais c'est peut-être de notre faute, vous n'avez pas eu le bon chiffre. Vous avez parlé d'un portefeuille de 820 millions. Aujourd'hui, on a 1,4 milliard.
Il faut updater le site internet, mais il n'y a pas de souci. Ça va dans le bon sens.
C'est bien pour ça que je vous dis que c'est d'aide de notre erreur, mais c'est un groupe qui va vite.
Ouais.
Et c'est un groupe qui va vite et qui se développe. Donc ça doit se structurer d'ailleurs. En France, l'objectif, en effet, était à un moment, a été de dire avec le fondateur, aujourd'hui, accélérons notre développement et passons et triplons notre activité d'ici 2025. Ça passe par le fait déjà d'un sujet territorial. Donc, c'est un métier d'ancrage, il faut être ancré sur ces territoires. L'aventure Equilis France s'est d'abord démarrée dans le sud de la France. Donc nous avons un bureau à Sofia où nous réalisons des opérations d'envergure d'ailleurs, entre Sofia, Avignon, Grimaud et ainsi de suite. On a créé un bureau en Île-de-France, on a une activité dans le sud-ouest et on a une activité en Rhône-Alpes.
Que représente la France dans la ventilation de l'activité d'Equilis qui, encore une fois, est en Belgique, au Portugal,
Belgique,
etc.
Non, Belgique, Espagne, Pologne, Allemagne, Hollande, 6 pays.
Et la France dans tout ça?
Et la France dans tout ça, c'est un pays. Quand Equilis s'est créé il y a 16 ans, et Equilis France s'est créé il y a 5 à 6 ans. Quand on prend l'activité d'aujourd'hui, ça reste un petit pays. Quand on prend le portefeuille, aujourd'hui, on est en train d'arriver à 30%. Et l'objectif, c'est d'accélérer ce développement et d'en faire un des gros pays du groupe. Très clairement, c'est ce qui a été affiché aujourd'hui par le fondateur et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint cette aventure. Si je vous donne un dernier chiffre, Equilis, il y a un an, était avec un portefeuille d'affaires qui équivalait à 180 millions. Aujourd'hui, on est à 440 millions.
Bravo. Alors justement, vous êtes dans la cour des grands. Hein, on a fait...
Non, on n'est pas dans la cour des grands. On reste.
Vous en approchez.
Il faut rester humble. Non. On n'est absolument pas dans la cour des grands. On veut juste aujourd'hui faire notre boulot sérieusement sur les territoires dans lesquels on décide de se développer. Sur des axes forts que vous avez cités avant, la mixité... La transformation, la rénovation de friches, la transformation de friches industrielles, pour aujourd'hui avoir une ville qui se réinvente. Parce que si on revient à votre question aussi préalable, l'évolution, elle est, la population mondiale est en train de grandir, et ça grandit en France. Les fondamentaux de la demande restent excellents. Vous allez avoir une augmentation du nombre de ménages, on parle de 4 millions à horizon 2030, une augmentation de la population.
Les taux encore favorables?
Les taux, ça c'est même conjoncturel, mais les fondamentaux structurels, c'est avant tout, lorsque vous faites du logement, c'est de répondre à une demande. Et la demande, c'est une évolution de la population.
Démographique.
Ouais. Démographique. Vous l'avez en Europe. Et vous allez continuer à l'avoir. Aussi, il y a un problème climatique dont on parle beaucoup. Vous avez des zones, on se dit, il y a quelques années, qui ne pourront plus être extrêmement viables en termes climat. Donc aujourd'hui, il y a des mouvements de population. Et l'Europe va sûrement devoir accueillir dans les dizaines et dizaines d'années de la population. Donc vous allez avoir un accroissement des métropoles. Le sujet de nous, acteurs de ces villes de demain, de ces métropoles de demain, c'est de faire en sorte que cet accroissement dans les métropoles soit désirable, soit viable, soit durable, soit ce que vous voulez. Et nous, c'est pour ça qu'on croit que ce sera une ville qui se reconstruit sur elle-même. Avec de la mixité, tout en répondant au sujet du carbone et des enjeux de développement durable.
Donc votre chance, ça reste l'Europe, même si c'est déjà très important.
Notre chance, c'est que l'Europe. C'est 6 pays, il n'y a pas aucune velléité d'Equilis de grandir dans d'autres pays européens.
Justement, je parlais de la cour des grands. Il y a un groupe français, Icade, qui y est. D'ailleurs, son directeur général était à votre même place il y a quelques semaines. Et nous avons effectivement parlé à certains responsables là-bas parce qu'ils vous connaissent pas mal apparemment. Hein. Chez Icade, vous avez des contacts, n'est-ce pas, Johanna?
Oui, on a appelé Emmanuel Desmézières, qui est donc d'Icade Promotion. Ça vous fait déjà rire?
Je connais bien.
Attendez un peu.
Je connais bien Emmanuel.
Et bien, visiblement, lui aussi, il vous connaît bien. Il nous a parlé de vous, on l'écoute tout de suite, on vient juste après.
Emmanuel Desmézières, bonjour, vous êtes le directeur général d'Icade Promotion et ça fait plusieurs années que vous pratiquez Laurent Thirault. Qu'est-ce qui le caractérise d'après vous?
Bonjour, oui, c'est vrai que Laurent Thirault, c'est un vieux compagnon de route maintenant. Et ce qui le caractérise en premier lieu, c'est son champ de compétences sur les métiers de l'immobilier et de la promotion immobilière en particulier. C'est un grand professionnel de ce secteur d'activité en capacité d'appréhender des marchés très différents au niveau géographique. Il a œuvré en Pologne, en Belgique, il est maintenant en France, et surtout produits confondus, du logement, du bureau, du commerce, à l'échelle de l'immeuble et du quartier. C'est véritablement un grand professionnel de nos métiers de l'immobilier, et en particulier du développement urbain et de la promotion immobilière. Laurent marque son entourage par sa capacité à entraîner. Je crois que c'est vraiment un leader dans le sens où il fédère, il entraîne, il motive. Et tout ça dans une envie, dans un rapport à la performance et au plaisir. Donc c'est tout ce qui fait la qualité de Laurent, je crois.
Vous vous voyez comme ça ou c'est la première fois que vous avez un retour finalement de votre comment vous êtes perçu?
Déjà, je suis flatté parce que Emmanuel, s'il y a bien un grand professionnel qui réussit très bien, c'est lui. Non, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps puisqu'on a fait de nombreuses années ensemble au sein de Bouygues Immobilier. On a travaillé sur des territoires similaires. Il a dit un mot qui est pour moi essentiel, plaisir. J'ai beaucoup travaillé sur des valeurs qui avaient été mises à l'époque chez Bouygues Immobilier, l'ouverture. L'audace, parce que dans un monde qui bouge, soyez ouvert. On a un métier, il faut être audacieux, donc il faut prendre des risques. Pour ça, il y a un nœud gordien qui a confiance. Et si vous arrivez à faire ça, comme de par hasard, vous prenez du plaisir. Et c'est parce que vous prenez du plaisir que vous avez de la performance, pas l'inverse. C'est pas parce que vous êtes performant que vous prenez du plaisir. Et donc je crois et je suis très favorable à un moment à ce que nos collaborateurs prennent du plaisir. La vie est courte, on bosse beaucoup. Donc à un moment, si en plus vous ne prenez pas de plaisir, c'est un peu dommage, j'allais faire autre chose.
Mais alors comment ça se traduit? Comment vous vérifiez? Bon, il y a des enquêtes de satisfaction dans les sociétés. Mais enfin,
vous savez, il y a un truc tout simple. Hein. Est-ce que la personne que vous voyez, lorsque vous arrivez le matin, elle a un sourire ou pas? Vous savez, le sourire, il dégage. S'il est réel, s'il est vrai. Et bon, moi j'observe, je regarde. Et ça m'arrivait plus d'une fois de voir des gens et je les voyais malheureux. Je les ai même invités, poussés, je les ai aidés à aller faire autre chose. Ils m'en ont remercié, vous voyez.
Eh bien, Johanna a le sourire, d'ailleurs.
Ça me fait rire.
Ça me fait rire parce que j'ai déjà entendu ça quelque part. Je vous raconterai si vous voulez. En attendant, on va écouter un peu de musique. On va faire une petite pause musicale avec votre deuxième choix. C'est Grand Corps Malade avec le titre Le sens de la famille. Pourquoi ce choix, Laurent?
Ah bah écoutez, les paroles, vous comprendrez.
C'est un peu expédié, ça. Hein.
Non, mais c'est simple. Je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais moi, aujourd'hui, bon, je suis passionné par ce que je fais dans ma vie. Mais à un moment, vous savez, la famille, ça reste le pilier. Et quand vous écoutez ces paroles, je me retrouve énormément dans ce qui a été raconté dans cette belle chanson.
Allez, on l'écoute. Grand Corps Malade, le sens de la famille.
Imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence. On n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement tellement.
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment. Et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Repose-toi bien, ma chérie. À bientôt, Charles.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Voilà pour ce deuxième choix musical de notre invité Laurent Thirault. C'était Grand Corps Malade avec Le Sens de la Famille. Je pense qu'on a tous bien compris maintenant pourquoi vous avez choisi ce titre. Vous nous avez parlé de ce lien finalement qui a guidé un peu tout votre parcours, qu'il soit personnel ou professionnel, et qui va également guider un peu le plan de route d'Equilis, hein, puisque vous nous le disiez, l'idée c'est de construire finalement la ville en mettant en avant ce lien. Est-ce que ça veut dire que chez Equilis, on est aujourd'hui branché entre guillemets sur tous ces nouveaux modes de logement qui apparaissent? Je pense par exemple au co-living.
Bien évidemment. Alors aujourd'hui, si on prend quelques exemples d'opérations qu'Equilis travaille, je vais me concentrer d'abord sur la France. Il y a des exemples en Europe que l'on fait avec des vrais sujets de mixité, mais lorsqu'on travaille à Clermont-Ferrand à restructurer une friche, enfin pas une friche, un site commercial, ancienne génération pour un nouveau quartier, on a réfléchi avec des composantes commerciales, de services, du parcours résidentiel classique avec TVA 5.5, une résidence étudiante dernière génération, une résidence senior, et ainsi de suite. Puisque l'objectif était sur ce site, qui est un site d'entrée de ville, de recréer un peu un concentré des différents usages, sans parler du parc énorme que l'on crée au milieu pour remettre la ville verte au centre d'un site qui était au départ très minéralisé.
Et effectivement, à Sofia Antipolis, il y avait ce projet 25 000 mètres carrés pour redonner vie à l'ancien site des terrasses de Sofia. Ouais. Vous êtes capable de redonner vie, hein, quand même.
Ben, c'est un site qui a été abandonné depuis maintenant quasiment 10 ans, avec un chantier qui a été arrêté pour des raisons diverses et variées. Et on a gagné ce projet contre des acteurs nationaux qui réfléchissaient mono-usage, puisque Sofia est avant tout une technopole, donc il y avait un programme et des concurrents qui réfléchissaient bureaux. Et nous, on est la première opération d'envergure à remettre du résidentiel et du bureau, mais également du résidentiel à Sofia pour éviter les sujets de commuting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut offrir aux gens... Le problème de la mobilité est un vrai sujet aujourd'hui, le coût de la mobilité. Et donc, vous voyez, notre projet qu'on a imaginé il y a un an et demi est en train de répondre à un sujet d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire qu'il faut offrir pour un territoire, pour développer une attractivité de territoire, des offres à la fois de productivité de bureau, ainsi de suite, mais aussi une offre résidentielle, ce qu'on vient de faire, avec un parcours entre du social, du PSLA, du logement maîtrisé et du logement classique.
L'innovation, vous la mettez où? Parce qu'on voit parfois vous parler de développement durable, certains acteurs immobiliers mettent plus l'accent sur la technologie, plein de high-tech, donc dans ces réalisations, vous allez me dire que vous êtes innovant surtout, mais quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise Equilis?
Il faut faire des choix. Alors, chaque projet a ses réponses. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on fait le centre commercial des Docks à Bruxelles, l'innovation, elle s'est faite sur un sujet de chauffage, donc par rapport au réchauffement climatique. On a pris l'énergie d'une centrale d'incinération de la ville de Bruxelles qui chauffe aujourd'hui tout le centre commercial, par exemple. Lorsque aujourd'hui on réfléchit sur notre retail park à Monteux, on réfléchit sur à la fois les usages, donc c'est dans les différents types d'activités qu'on fait pour que ce soit un retail park de proximité, mais également avec une centrale photovoltaïque que l'on met sur le site. Donc à chaque fois, le sujet, c'est l'usager. Alors, le dernier exemple que je vais vous donner, parce que c'est très variable, on a été le premier opérateur de façon assez importante à développer les fameuses forêts urbaines Miyawaki, notamment avec une forêt qui a été déjà créée sur aujourd'hui un site en Belgique et qu'on est en train de développer sur un site en France. La forêt Miyawaki, c'est à la fois un sujet communautaire, c'est que vous le faites avec les riverains, et c'est une méthode qui permet d'avoir une forêt très dense qui grandit en 10 ans au lieu de 30 ans.
Comment font-ils, excusez-moi, pour expliquer pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore?
Alors, c'est à la fois un sujet de choix des végétaux et deuxièmement un sujet de traitement du sol que vous avez spécifique. Et donc c'est une société spécialisée et on a fait la première en Europe et on est en train d'en faire une deuxième.
Vous le disiez, vous n'êtes pas seulement à Paris, mais également en région bordelaise. Comment vous choisissez votre implantation? Vous restez dans les grandes métropoles, on dirait, parce qu'il y a toute cette tendance vers les villes moyennes. Depuis la pandémie, ça y est, les Français découvrent l'attrait des villes moyennes. Vous, pour implanter Equilis sur le territoire national, vous vous limitez aux très très grandes métropoles?
Alors, non, mais c'est toujours pareil, il faut faire les choses par étapes. Moi, j'ai eu la chance de faire ce métier dans plein de pays, de le créer, de le développer, de le restructurer. C'est un métier d'ancrage, donc ça prend du temps. Et il faut aujourd'hui connaître ces territoires. Donc on a d'abord commencé sur le Sud-Est, on a décidé de créer l'Île-de-France avec une équipe. On avait déjà le Sud-Ouest avec deux opérations faites et on en réalise deux autres. Donc on a décidé de se concentrer sur ces quatre territoires avec la Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est déjà pas mal, parce que lorsque, vous voyez, moi je suis arrivé il y a un an, on n'est pas en train de s'ennuyer. Et voilà, donc c'est un choix d'y aller par étapes pour bien faire son travail.
Voilà, vous parcourez pas mal de kilomètres. D'ailleurs, en venant, vous nous dites à Radio Immo, vous êtes venu en vélo. Et je crois qu'il y a quelqu'un, l'un de vos amis, qui connaît bien le vélo. Vous pouvez nous en parler, Johanna?
Oui. Laurent, vous avez l'air scotché par cette transition. Fabienne, on vous applaudit, elle est incroyable. On va écouter Philippe Claverolle, qui est l'un de vos amis, qui fait, je crois, du vélo avec vous, mais qui a un peu du mal à vous suivre, il paraît.
C'est l'inverse, il est trop gentil.
Philippe Claverolle, bonjour. Vous êtes vice president chez Stellantis dans la partie marketing, mais c'est surtout au titre d'ami de monsieur Thiraud que vous êtes interviewé. Alors c'est amusant, vous ne vous êtes pas connu en France, mais où était-ce?
Bonjour, non, pas du tout. On s'est connu il y a très longtemps, presque 15 ans maintenant, en Pologne, à Varsovie exactement. À l'époque où moi je dirigeais Citroën en Pologne et Laurent était chez Bouygues Immobilier, c'était le patron de la Pologne.
Et qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Pourquoi êtes-vous resté en contact?
D'abord, je dirais, enfin, Laurent, c'est ce qu'on appelle, c'est un très très bon copain pour moi. Et il a trois qualités qui font qu'on est toujours en contact et qu'on s'appelle plusieurs fois par semaine. Tout d'abord, il a une joie de vivre qui est communicative, et ça, c'est très très appréciable. C'est ce qu'on appelle vraiment un bon convive. Il a toujours la pêche. Il est très dynamique. Et puis Laurent, il a une qualité que moi je n'ai pas, c'est que c'est un animal social. Il a une capacité extraordinaire à rentrer en contact avec les gens. Et vous voyez, on fait du vélo tous les week-ends. Et c'est probablement le seul cycliste que je connais qui dit bonjour à tous les gens qu'il croise. Que ce soit les gens qui promènent leur chien, les gens qui font leur footing. Et ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, qui est rare et qui en fait un bon partenaire, un très bon copain.
Alors, le vélo, ça peut être difficile. Vous marquez à la culotte tous les deux. Comment ça se passe, vos courses?
Alors, si je suis très honnête, Laurent a le défaut du bon convive. C'est que il tient pas toujours les objectifs de régime qu'il a, donc dans les côtes, en fait, il teste souvent parce qu'il est derrière. Voilà, ça c'est ma petite fierté personnelle, c'est que le dimanche matin, en général, il regrette les bons repas qu'il a pu faire dans la semaine.
Ou peut-être est-il élégant, il est sur le plateau, il vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, peut-être au sujet de votre prochaine course du week-end ou autre chose?
Non, j'ai envie de lui dire de rester comme il est parce que c'est pour ça qu'on l'apprécie et Dieu sait qu'on l'apprécie beaucoup. Moi, ma famille, mes enfants, mon épouse, c'est vraiment un très très bon copain et on est content de l'avoir. Donc il ne change surtout pas et surtout qu'il ne se mette pas à devenir un dingue de la performance à vélo, j'en prendrai ombrage.
Donc, en tout cas, en Pologne, c'était la fête. Vous, tous ces amis que vous êtes faits là-bas, ça donne l'impression qu'il y avait un état de grâce là-bas en Pologne.
Si vous avez regardé le film Les Ch'tis, moi étant du Nord, vous savez, il y a l'expression, on vous annonce que vous arrivez dans le Nord, vous pleurez, et vous devez repartir, vous pleurez. La Pologne, c'est ça aussi. Pour une raison simple, c'est que quand
je
vous êtes...
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Pourtant, je le pense sincèrement. Et vous savez, on a eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Un de mes amis de Normandie, puisque vous me parliez de Normandie, m'a dit, mais Laurent, toi qui as énormément vécu, qui as vécu dans beaucoup de villes, quelle est la plus belle ville que dans laquelle tu habitais? J'ai dit, vous ne trompez pas, une ville, elle est belle par les gens que vous rencontrez. Voilà.
Donc vous êtes très sensible à ce qui se passe à l'Est, c'est pas la Pologne, mais c'est pas très très loin.
C'est tout près, on a un centre commercial dont on est propriétaire qui est à 30 km de la frontière ukrainienne. On fait des actions régulières, le groupe Eculis, pour justement aider tous ces réfugiés qui arrivent vers ce centre et vers cette ville, Chlem.
Parce que c'est vrai qu'on a un ton très léger dans cette émission, c'est voulu, mais le contexte est un petit peu lourd en Europe et au-delà, le contexte politique. On est d'ailleurs à quelques jours de l'élection présidentielle en France. Quel regard vous portez sur le monde? On a parlé de choses un petit peu fantaisistes, mais je crois comprendre que votre esprit d'analyse est bien là, bien vivant.
Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment des sujets qui sont vrais, qui sont d'actualité, les sujets de sécurité, la guerre est là, à nos portes. Il y a un sujet qui intervient aussi beaucoup, qui est le sujet du pouvoir d'achat, sans parler du sujet du réchauffement climatique, qui pour moi sont des sujets essentiels. Sur le pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier que le logement en fait énormément partie. Et donc de ce fait-là, certains ont crié des sonnettes d'alarme en disant qu'il était un oublié de toute cette campagne et de tous les candidats. Je pense que c'est vrai, qu'on a un vrai sujet, que c'est un sujet qui n'est pas que français d'ailleurs, qui est européen, où tous les prix en Europe sont en train d'augmenter, qui font qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir du logement de qualité accessible pour une grande partie de la population. Ça, selon moi, et certains l'ont dit que ça pourrait être une bombe sociale, comme Robin Ribaton, par exemple, et je crois au fait qu'il faut qu'on soit vigilant. Notre métier, justement, c'est de créer cette ville de demain désirable, qui répond aux enjeux climatiques, mais jamais oublier qu'elle doit être accessible à la grande majorité, à tous, entre du logement social, mais aussi du logement d'accession. Parce que le logement, c'est à la fois évidemment un lieu de vie, pour la résidence principale, mais c'est aussi quelque chose qui permet à beaucoup de gens de créer leur retraite, d'avoir un patrimoine. Parce que la spécificité, par exemple, française, c'est que beaucoup du patrimonial, de l'approche patrimoniale, se fait par l'immobilier. C'est comme ça qu'on peut préparer sa retraite. Donc j'invite tous les candidats à bien réfléchir à ce sujet-là et d'avoir une politique assez dynamique, pas que les politiques, aussi les acteurs dont on fait partie, pour qu'aujourd'hui on sache résoudre ce problème d'un logement qui soit accessible en termes de coûts sur le long terme, tout en étant de qualité et répondant aux enjeux climatiques de demain.
C'est vrai qu'investir dans un projet immobilier, c'est presque un acte politique. Hein. On choisit un terrain, on choisit une durée, un horizon. Et plus globalement, sur cette élection, avec les forces en présence, sans faire de politique de manière intrusive, quel est votre regard sur la situation un peu inédite avec beaucoup de voix extrémistes, et puis on ne sait pas si ça va être un scénario de redite par rapport à ce qu'on a connu, puisque vous êtes très politique quand on vous entend. Quelle est votre analyse?
En tout cas, ce n'est pas que je suis politique, mais je m'intéresse depuis toujours à ce monde qui évolue, qui bouge, aux problèmes sociétaux. Donc je vais plutôt rester non pas sur la politique, mais sur les enjeux sociétaux. Je vous l'ai dit, je pense qu'on a une population mondiale qui croît, on a des enjeux des villes de demain et de cette métropolisation, on a cet enjeu de réchauffement climatique qui a été un peu oublié, qui va être oublié dans les prochaines années du fait des problèmes d'approvisionnement de matières premières, que ce soit avec le gaz, le pétrole, ainsi de suite. Et moi, je crois beaucoup au fait que le sujet, c'est pas de plus produire ou d'énergie ou comment on va trouver des énergies de substitution, c'est de consommer moins. J'ai rencontré il y a peu de temps, dans le cadre d'une négociation foncière, un directeur des achats d'une société qui est dans le pétrole et qui expliquait juste qu'aujourd'hui, on allait creuser à 10 km bientôt pour aller trouver du pétrole. Donc on a du pétrole pour 20 ans. Alors peut-être qu'on en aura après parce qu'on aura des nouvelles méthodes. Il disait, voilà, c'est la capacité humaine à créer des nouvelles technologies. Moi, ça me fait un peu peur qu'on ait creusé à 10 km pour trouver du pétrole. Il me dit, mais en plus, deux tiers de la consommation, c'est le plastique. Donc moi, vous voyez, aujourd'hui, j'invite juste à ce qu'on consomme moins de plastique, globalement, parce que si on consomme moins, ben, on aura moins de problèmes d'énergie et on réfléchira mieux à la société pour nos enfants et petits-enfants.
Les générations jeunes ont l'air très sensibilisées en moyenne davantage que les générations précédentes sur ces sujets.
Je mettrai un bémol là-dessus. J'ai trouvé tantôt un peu hypocrite. C'est les grands débats que j'ai avec mes enfants et amis de mes enfants où tantôt, je leur dis, vous me parlez beaucoup de la société demain verte, ainsi de suite, sauf que quand il faut prendre un avion pour faire un aller-retour quelque part, vous vous gênez pas. Réfléchissez différemment, peut-être.
Et donc,
ou quand ouais. Vous faites vos courses, vous allez... une autre anecdote que je vais donner, je suis allé faire un jour des courses, elle va peut-être m'en vouloir si elle écoute là, avec ma fille des courses dans un centre commercial ouais. Beaugrenelle, puisque j'habite dans le 15e.
Ouais.
Et ce qui m'a choqué, j'étais prêt à le faire, on est allé, elle m'a dit, bon papa, c'est bon, j'ai tout vu, on rentre, je vais acheter sur Internet. Et j'ai dit, mais c'est absurde. Et en fin de compte, elle a été achetée sur Internet. J'ai dit, mais tu ne te rends pas compte le sujet du transport, de l'emballage, ainsi de suite, alors que je pouvais tout juste le prendre là. Je pense que c'est une génération qui, à la fois sur la consommation des vidéos, sur les problèmes, donc sur l'emballage, aujourd'hui sur l'e-commerce, ça a aussi des contraintes qui sont importantes.
Est-ce que ce n'est pas la tendance du commerce ? Il y a des magasins, Orange, pour ne pas le noter, quand on arrive, on vous dit, bah, très bien, maintenant vous allez aller faire la commande sur votre site Internet. On nous renvoie devant notre ordinateur. Donc. Vous êtes partisan de, il faut du physique.
Je pense qu'il faut de la proximité. Vous voyez, on fait un retail park, je vais vous l'illustrer aussi. Une de mes grandes fiertés actuellement, c'est qu'on va faire un retail park de 13 000 m². Il nous a fallu 3 ans pour obtenir les autorisations. Il les a au nord d'Avignon et avec la mairie. Et ça, je vais saluer le maire de Monteux, Christian Gros, là-dessus, qui nous a poussé aussi à réfléchir différemment ce qu'on a fait. Et on est en train de créer à la fois, il y a un super U, mais on fait le mât des agriculteurs avec la chambre d'agriculture pour offrir un espace, enfin pas offrir, et d'ailleurs ils le prennent. Et on crée la possibilité avec le mât des agriculteurs d'avoir un circuit court. Et je pense que voilà, il faut réfléchir un peu différemment, consommer différemment. Après,
je le disais, c'est presque un discours politique. Hein. Je ne sais pas si votre fille va aller voter. C'est un peu l'enjeu.
Je vais vous dire, je ne suis pas écolo.
Est-ce que les jeunes vont aller voter, et les moins jeunes, lors de cette élection, dans ce contexte hein. Non, vous disiez ça juste à l'intermède, alors je le reprends.
Non, mais vous avez raison. Je pense qu'il n'y a pas que les jeunes. Moi, je trouve que ce qui m'embête après, c'est que je trouve qu'on est une société où on conserve quand même beaucoup de droits et passés. On ne prend pas ses devoirs. Donc à nous, aujourd'hui, on a la démocratie qu'on mérite. Hein. Donc à un moment, si vous n'avez pas voté, n'allez pas râler. Vous avez des gens qui ne sont pas à votre image. Allez voter, vous aurez des gens qui vous représentent. Donc je pense qu'évidemment, il va y avoir cette élection présidentielle. Mais moi, c'est l'abstention qui me fait peur, avant tout. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut aller voter. Parce qu'aujourd'hui, on sera écouté. Certains, il y a des bouquins qui sont écrits sur la fin des démocraties, mais parce qu'aujourd'hui, si on ne se mobilise pas, les gens ne votent pas, on n'est pas représenté correctement. Et donc, ok, il y a les présidentielles, mais le plus important pour moi, ça va être les législatives. Parce qu'il faut oublier qu'à un moment, juste après, 6 semaines après, ce qui est un peu long d'ailleurs, mais aussi un peu court, les gens vont devoir voter, et c'est eux qui font les lois de demain, et qui vont imaginer la France de demain, et l'Europe de demain.
C'est vrai, Johanna, vous qui faites du sport à haute dose, est-ce que vous allez prendre le temps dans votre week-end pour voter ?
Bien sûr, évidemment, toujours, tous les jours, à chaque élection. Comme le rappelait très bien Laurent, et c'est un avis que je partage, on se souvient toujours de nos droits, pas forcément de nos devoirs. Voter en est un, et même si c'est pour voter blanc, il faut y aller, clairement. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Merci beaucoup, Laurent Thirault, pour cet entretien. On était absolument ravis de vous recevoir ce matin, d'apprendre à vous connaître. C'est une belle rencontre. Merci pour ça. Fabienne, merci à vous également.
Merci.
D'avoir été,
on pourrait demander à nos auditeurs de voter à la fin de l'émission.
Mais on va leur dire.
Et je suis sûre qui va gagner à la majorité.
On va leur dire juste avant.
Merci à vous.
Merci Laurent. Juste avant, on va quand même rappeler à tous nos auditeurs que les programmes de Radio Immo ne sont pas terminés, ça continue. Le Flash Info dans quelques minutes et puis Allo Radio Immo, votre rendez-vous avec notre panel d'experts qui répond à toutes les questions que vous vous posez en amont de votre projet immobilier. On va se quitter sur le dernier choix musical de notre invité. C'est signé Keen, ça s'appelle Somewhere Only We Know, on va l'écouter. On en profite pour vous rappeler que les programmes se poursuivent sur Radio Imo tout le week-end et puis lundi, hein, avec de nouvelles émissions, de nouvelles infos, de nouvelles chroniques, de nouvelles interviews. D'ici là, on vous l'a rappelé, on vous le rappelle encore, n'oubliez pas d'aller voter. Ouverture des bureaux de vote dans un peu moins de 48 heures. Ça prend pas très longtemps et c'est nécessaire à faire vivre notre beau pays dont dépend évidemment l'immobilier. Merci à tous. Très belle journée.
Merci Johanna. Merci.
Et à la semaine prochaine.
Merci à vous.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.